Florian Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Fragmentée et désunie depuis la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011, la Libye est devenue un espace d'alliance et de parrainage où se mêlent acteurs locaux, régionaux et internationaux. Face à la Turquie, côté Tripoli, la Russie s'affiche avec le maréchal Haftar, en Syrie laïque, faisant de la Libye une étape supplémentaire de sa présence en Méditerranée orientale, prolongement de son installation en Syrie et aussi avant-poste de son autre objectif de conquête très ambitieux, l'Afrique. C'est en tout cas l'analyse de notre invité Nour Edjazi, dont la thèse portera sur la forte présence russe en Maghreb Machrek. En seconde partie d'émission, nous lirons la presse régionale avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Nour Edjazi, bonjour.
Bonjour Éric Bataillon.
Doctorante à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Pour le dossier spécial sur la Libye de la revue trimestrielle Moyen-Orient, vous analysez les ambitions méditerranéennes de la Russie en Libye. C'est le titre d'ailleurs de votre article. Nour Edjazi, ce que l'on peut dire en propos liminaire, c'est que la Russie a une relation forte et constante avec la Libye, et cela depuis de nombreuses années. Le colonel Kadhafi était d'ailleurs un client militaire de la Russie.
Oui, parfaitement. La Russie a en tout cas entretenu des relations pragmatiques avec l'ancien régime libyen. Plusieurs contrats d'armement et d'infrastructures ont été signés à hauteur de 10 milliards de dollars. Sans oublier aussi que la Russie, contrairement à la France ou le Royaume-Uni, s'est abstenue de voter la résolution 1973 autorisant une zone d'exclusion aérienne qui a permis la violente éviction de Mouammar Kadhafi.
C'était en quelle année ?
C'était en mars 2011. Et les guerres que l'on connaît et qui vont suivre, par ailleurs. Et d'ailleurs, cette abstention de vote va être amèrement regrettée par les Russes. Justement, elle va apprendre de cette erreur-là. Et elle fera pleinement usage du droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, comme on le verra plus tard dans le cas syrien.
Alors, vous écrivez que la stratégie russe en Libye est ambivalente. Que voulez-vous dire ?
Alors, je pense que la stratégie russe est ambivalente par plusieurs aspects. D'abord, parce que la Russie s'efforce de maintenir un rôle de médiateur sur le plan diplomatique, en dialoguant avec les deux camps rivaux du conflit, mais aussi bien que les réseaux kadhafistes. Mais tout en faisant appel à des acteurs privés, à savoir les mercenaires employés par Wagner ou RSB, pour peser sur le plan militaire en soutenant l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar.
Les mercenaires Wagner, RSB, ce sont des sociétés privées, c'est cela ?
C'est ça, ce sont des sociétés militaires privées qui ont un statut d'ailleurs institutionnel assez ambigu. Ils ne sont pas reconnus sur le sol russe et finalement, c'est assez commode pour le Kremlin.
Alors justement, l'emploi de ces mercenaires privés non directement liés à l'État, aurait-il l'avantage de dédouaner le Kremlin en cas d'échec sur le terrain ?
Ben, on peut dire que c'est un rôle finalement de levier d'influence. Enfin, il éviterait en tout cas au Kremlin d'essuyer le coup politique, par exemple, d'une débâcle de l'armée régulière, mais aussi finalement de se dédouaner, bien entendu, en cas de dommages collatéraux ou d'enlisement dans la guerre. Et c'est aussi un outil de projection de puissance plutôt efficace.
Alors c'est pratique, mais ça ne trompe personne.
Oui, ça c'est clair.
Alors en Libye, comme en Syrie d'ailleurs, la Russie fait face à la Turquie, laquelle soutient le camp d'en face. Les enjeux sont-ils les mêmes pour les deux pays ?
Alors, je dirais que les enjeux ne sont pas les mêmes. D'abord, il faut garder en tête que la Libye possède les plus importantes réserves de pétrole du continent africain et qu'en plus de ça, elle a des réserves de gaz offshore découvertes sur ses côtes, ce qui a pour conséquence, évidemment, d'augmenter considérablement son attractivité pour un pays comme la Turquie qui, justement, rappelons-le, importe 85% de ses ressources énergétiques. Et sans oublier que la Turquie a pendant longtemps entretenu une relation économique très dense avec la Libye.
Et alors pour la Russie, l'intérêt ?
Alors pour la Russie, c'est différent puisque la Libye n'est pas vitale pour la Russie. Elle est un moyen finalement pragmatique de préserver à minima une place de choix dans la région tout en gagnant une plus grande marge de négociation face à la Turquie sur le dossier syrien. Parce que le dossier syrien reste le principal ancrage de la Russie en Méditerranée et la Russie tient d'abord finalement à verrouiller, à préserver ses acquis en Syrie. Mais là où la Russie et la Turquie se rejoignent, je dirais c'est dans leur volonté finalement d'exercer une pression sur l'Union européenne et de pénétrer plus activement le marché africain.
N'est-ce pas malgré tout un jeu dangereux auquel se livrent les deux pays, par ailleurs souvent partenaires, y compris sur les plans diplomatiques et économiques ?
Oui. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est une forme de jeu d'équilibriste dans lequel les acteurs ont appris finalement à ne pas outrepasser les limites de l'autre. Et justement, le dialogue permet cela. Je parlerais, moi, plutôt de rivalité circonstancielle entre la Turquie et la Russie. D'abord parce que nous avons deux acteurs qui se parlent. Il y a donc une interopérabilité en coulisses, bien qu'ils soient rivaux sur le terrain. Mais en même temps, ils se disputent l'expansion de leur aire d'influence, que cela soit en Libye, en Syrie ou plus récemment au Haut-Karabakh.
Alors, les services de renseignement font état d'une implication militaire croissante de la Russie en Libye. Est-ce que sa présence, la présence de la Russie en Syrie, lui est d'une quelconque utilité ?
Alors, la présence russe en Syrie, notamment, rappelons-le, via la base aérienne de Hmeymeim, ainsi que le port de Tartous, ont bien entendu été d'une grande utilité pour la Libye. Justement, il y a un récent rapport qui a fait beaucoup de bruit du Conseil de sécurité de l'ONU, donc sur les violations de l'embargo sur les armes, qui nous apprend qu'en 9 mois, plus de 300 avions militaires russes ont effectué des vols entre la base aérienne de Hmeymeim et l'est de la Libye, transportant environ 5000 mercenaires de Wagner pour combattre auprès de l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar. On peut dire donc que les deux bases russes en Syrie octroient clairement un appui stratégique redoutable sur le flanc sud de la Méditerranée.
Vous évoquiez le maréchal Haftar. Quelles sont les relations entre ce maréchal qui tient donc la partie est, la Cyrénaïque, en Libye et la Russie ? On dit qu'elles se sont distendues.
Déjà, pour commencer, on peut dire que Haftar n'a jamais fait l'unanimité au sein du pouvoir russe. D'abord parce qu'il est jugé peu fiable et piètre stratège. Peu fiable, car il fera subir aux Russes de nombreuses volte-face qui achèveront de ternir leur confiance. Je pense à d'abord en lançant une offensive contre Tripoli en avril 2019, sans avoir eu l'aval au préalable des Russes. Ensuite, en claquant la porte, finalement, sans signer d'accord, lors de la rencontre organisée à Moscou sous le parrainage russo-turc en janvier 2020. Et ensuite, je rajouterai piètre stratège, car il a essuyé plusieurs revers militaires. Certains d'entre eux ont coûté la vie à des dizaines de mercenaires russes. Je pense notamment à la perte décisive de la base aérienne d'Al-Watiya en mai 2020. Mais je tiens à ajouter aussi que contrairement à leur allié émirati, les intérêts russes en Libye ne sont pas personnifiés par Khalifa Haftar. Ils soutiendront dans tous les cas la figure dominante de l'Est. Parce que tant que l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar contrôlera la majorité des territoires et des champs pétroliers, alors les Russes le soutiendront.
Est-ce que justement les Russes ont éventuellement un remplaçant ?
Alors oui, il y a des rumeurs qui ont circulé autour du président de la Chambre des représentants qui est Aguila Salah, mais c'est pas encore totalement clair parce que déjà il est encore très lié finalement au déboire de Haftar, donc et il ne fait pas l'unanimité dans l'Est, parce que l'Est du pays se souvient aussi de sa proximité indéniable avec le clan Haftar.
Noura Jazi, quel est l'intérêt pour la Russie finalement de reprendre pied en Libye ? Est-ce simplement une politique d'influence régionale ou bien la Russie a-t-elle en ligne de mire plus largement l'Afrique et l'Afrique subsaharienne ?
Alors oui, d'abord je tiens à rappeler des chiffres, parce que finalement entre 2015 et 2016, le commerce entre la Russie et l'Afrique est passé de 3,5 milliards de dollars à 14,5 milliards de dollars. Donc il y a certainement un regain d'intérêt pour le continent africain qui offre indéniablement de nombreuses opportunités économiques. Souvenons-nous de l'organisation en grande pompe du sommet Russie-Afrique en octobre 2019 à Sochi qui a réuni plusieurs chefs d'État africains ainsi que des investisseurs russes, etc. Mais n'oublions pas non plus que la guerre est un commerce lucratif et que au-delà de l'armement, la Russie vend aussi son expertise avec l'envoi de conseillers militaires, de mercenaires ou de soutien logistique, comme cela a été le cas au Soudan ou en Centrafrique. Enfin, je rajouterais qu'il y a aussi la quête d'une profondeur stratégique, comme le démontre d'ailleurs l'utilité de l'arrimage naval et aérien en Syrie et qui a permis finalement à la Russie de s'implanter assez aisément en Libye.
Alors justement, cette présence russe en Libye pointe-t-elle à contrario l'absence de l'Europe et aussi des États-Unis dans ce dossier ?
Alors, il est clair que le vacuum laissé par le retrait des États-Unis de la région, ainsi que les désaccords, les nombreux désaccords qui subsistent au sein de l'Union européenne sur le dossier libyen, ont facilité l'émergence d'acteurs tels que la Russie et la Turquie. Mais n'oublions pas non plus la marginalisation croissante des Nations Unies et l'échec des pays occidentaux finalement à accompagner une transition politique en Libye. Et tout cela nourrit finalement l'idée, à raison d'ailleurs, l'idée d'un conflit fatalement inextricable en Libye.
Au final, Que pense la population libyenne, les habitants de Tripoli, de Benghazi, de Misrata, de cette situation?
Alors justement, la population libyenne est dépossédée de son propre pays. Elle vit au gré des coupures d'électricité, au gré des combats. Donc oui, ils sont certainement blasés par cette situation qui dure depuis plus de 10 ans. Et finalement, ils sont complètement délaissés par toutes ces ingérences étrangères, par ces nombreuses dissensions politiques manifestes au sein des partis politiques libyens, qui finalement font traîner les choses pour maintenir une forme de statu quo qui arrange leurs propres intérêts.
C'est la raison pour laquelle il y a très régulièrement dans les grandes villes des manifestations, des protestations.
Oui, il y a très très régulièrement des manifestations à Tripoli récemment cet été. Bien sûr, je pense que la population est en train de se lasser de cette situation, de ce marasme finalement dans lequel il se trouve. Et justement, beaucoup d'entre eux, finalement, perdent un peu espoir. Et même si de nombreuses rencontres organisées récemment pour justement organiser les prochaines élections en décembre 2021, très peu de Libyens y croient.
Merci, Nour Hedjazi.
Merci à vous, Éric Bataillon.
Doctorante à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, à lire dans le numéro 49 de la revue trimestrielle Moyen-Orient, votre article sur les ambitions méditerranéennes de la Russie en Libye.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour notre rendez-vous du samedi, la lecture de la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, de nombreux journaux s'intéressent au 10e anniversaire de la révolution tunisienne.
Oui, et la plupart des commentateurs notent que cet anniversaire a coïncidé avec le début d'un confinement général. Officiellement, c'est pour empêcher l'expansion du coronavirus. Une coïncidence dont doutent la plupart des commentateurs. De nombreux articles décrivent les rues désertes de Tunis où seuls les journalistes, surtout étrangers, et les policiers circulaient. La Confédération tunisienne du travail avait bien appelé à des rassemblements, mais peu de Tunisiens ont répondu présents. Les analystes soulignent que la désillusion et le mécontentement sont les sentiments dominants dans un pays où la crise économique et le chômage n'ont fait qu'empirer. Certains journalistes pensent que le parti islamiste Ennahda, qui a dominé la vie politique depuis 10 ans, est responsable de cet échec, alors que d'autres estiment qu'envers et contre tout, la révolution tunisienne a réussi à démocratiser le pays.
Michel Paul, la bataille contre le coronavirus est toujours à la une en Israël et la situation est préoccupante.
Oui, mais Eric, on peut déceler dans les articles ces derniers jours, peut-être pour la première fois, une certaine dose d'optimisme. On peut vaincre le virus, c'est le titre d'une chronique dans Israël Hayom, le quotidien proche du pouvoir en Israël. Pourtant, on atteint en cette fin de semaine de nouveaux records de contamination, près de 10 000 nouveaux cas quotidiens pour un pays de 9 millions d'habitants. Le troisième confinement est un fromage suisse, affirme un journal. Tout le monde circule en fait librement, mais selon la presse, la police va renforcer les contrôles pour éviter cette situation. Et dans les journaux aussi, les images en provenance des quartiers et des villes ultra-orthodoxes où les consignes anti-Covid sont rejetées de manière publique. Pourtant, soulignent les commentateurs, c'est là que le virus sévit le plus. Et puis parallèlement, la campagne vaccinale se poursuit. Deux réflexions que l'on trouve dans les quotidiens. Au sein de la communauté arabe israélienne, seuls 45% des plus de 60 ans sont allés se faire vacciner. Et d'une manière générale, on constate une baisse de l'enthousiasme des Israéliens, surtout les plus jeunes, à recevoir la double injection.
Michel, l'autre grand sujet dans la presse israélienne est politique. Il s'agit des élections du 23 mars prochain.
Les partis se font et se défont avant le dépôt officiel des listes au début du mois prochain. Ce week-end, un sondage dans Maariv montre que la nouvelle formation du maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, présentée avec grand fracas il y a moins de 2 semaines, est en voie de disparition. On constate un effritement total de la gauche et aussi, Eric, un retour en force du Likoud de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre qui multiplie ses opérations de charme auprès des Arabes israéliens, qu'il avait largement conspué au cours des campagnes précédentes. Il s'adresse aux Arabes, mais le vrai but, ce sont les électeurs de droite, explique Haaretz. Dans Yediot Acharonot, une ancienne ministre parle du cynisme de Netanyahou et dans Maariv, ce sous-titre « Il aime les Arabes qui aiment les Juifs ». Et la presse israélienne parle d'un retour possible. L'ancien Premier ministre Ehud Barak envisagerait un « comeback » à la tête du Parti travailliste.
Après cette page politique, prenons un peu de hauteur avec vous, Alexandre. Les tensions entre le Soudan et l'Éthiopie font la une de la presse de Khartoum et du Caire.
Oui, et des tensions qui ont coïncidé avec la répression dans la province du Tigré par l'armée éthiopienne et la fuite de nombreux réfugiés vers le Soudan. Des réfugiés qui se sont installés le long de la frontière dans une zone qui fait l'objet d'un différend entre Khartoum et Addis Abeba. Les nouvelles d'escarmouches terrestres, de violations de l'espace aérien et les échanges de menaces ont meublé la presse tout au long de la semaine. Une délégation soudanaise de haut niveau s'est rendue au Caire jeudi pour discuter justement de cette tension. L'Égypte a apporté son soutien total au Soudan. L'occasion aussi de discuter du barrage éthiopien de la Renaissance qui privera le Soudan et l'Égypte d'une partie des eaux du Nil bleu. Certains éditorialistes se demandent si une guerre de l'eau ne finira pas par éclater vu l'indifférence de la communauté internationale.
Le Caire, toujours Alexandre, une crèche enseigne simultanément 5 langues.
Oui, c'est le journal Masrilion qui consacre un petit reportage à cette crèche où l'on apprend aux enfants à écrire, parler et chanter en arabe, en anglais, en français et en chinois. Et cerise sur le gâteau, les hiéroglyphes. Une crèche située dans un quartier pauvre du Caire, Imbaba, est créée par une ancienne responsable onusienne de l'enseignement qui estime que les enfants avant l'âge de 7 ans ont une capacité à apprendre les langues qui perdent avec le temps, précisant que la plupart des crèches égyptiennes sont bilingues.
Michel, à propos des relations entre Israël et les États-Unis, tout le monde est d'accord sur un point, le ton va changer.
À quelques jours de la passation de pouvoir à Washington, la presse israélienne s'interroge sur l'avenir des relations entre Israël et l'administration Biden. Les médias ont surpris le chef du Mossad dans la capitale fédérale américaine. Yossi Cohen est très proche, vous le savez, du Premier ministre israélien et fait souvent office d'ambassadeur volant. Alors selon des sources américaines citées dans Israel Hayom, l'entourage du nouveau président américain est bien décidé à œuvrer pour des ententes avec les Israéliens, notamment pour un alignement sur le dossier nucléaire iranien. Eric, un titre de la presse israélienne est à retenir avec inquiétude cette semaine. L'état-major israélien met au point un plan d'action opérationnel contre le nucléaire iranien.
Et puis votre photo, Michel Paul, ou plutôt vos photos?
Si vous le permettez, une image double. D'abord celle du milliardaire Sheldon Adelson, qui est mort à 87 ans. Il était notamment le propriétaire du quotidien Israel Hayom. Le journal le compare aux bienfaiteurs Montefiore et Rothschild. L'homme qui a le plus influencé le paysage public en Israël, estime Haaretz. Et le journal ajoute, Adelson est mort, mais il continue à nuire. Et puis la presse israélienne commémore en image le 30e anniversaire de la guerre du Golfe. Sous les attaques de Scud, les Israéliens ont découvert à l'époque que les renseignements militaires étaient bien moins informés que la chaîne de télévision CNN.
Merci Michel et merci Alexandre. Orient Hebdo, une réalisation Mathias Golchani que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr. Vous pouvez également vous abonner à notre podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous évoquerons de nouveau la Libye avec le politologue Omar Babahouya qui nous expliquera pourquoi la Turquie s'est invitée dans la crise libyenne. À demain, prenez soin de vous.
Okay. نفس المشاكل والسفرانس رئيس البلاد رئيس البلاد رئيس البلاد
رئيس البلاد شعب البلاد برشاق بالمز البلاد لاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باركو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصعيد رئيس البلاد شعب البلاد برشاق بالمز البلاد لاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي باركو وناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصفات